personnel pour nous, même d'enrichissement. C'est des gens qui ont des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. C'est même dans leur couple, comment ils s'aiment l'un et l'autre. Et juste, c'est un exemple pour nous. On a de la chance de les avoir mis à nous et j'ai hâte d'entendre ce qu'ils vont partager. Est-ce qu'on peut les accueillir et les bénir à Connect to Grenoble? Merci.
Merci. avant de commencer, on voulait juste partager un témoignage. On parlait des enfants tout à l'heure. Et donc, en fait, on a un couple d'amis qui sont vraiment travaillés en ce moment pour faire une implantation d'église sur Chambéry. Et on les a reçus dernièrement à la maison. Et avant ça, quelques jours avant, la veille, donc notre premier Laël, donc il a 6 ans, hein, il reçoit dans son cœur et il nous le partage. Ce couple-là, il les cite, ils sont invités à Chambéry. Il connaissait même pas, il savait même pas ce que c'était, si c'était une ville ou quoi. Donc juste un encouragement pour vous dire que Dieu parle au travers des enfants, il se sert des enfants. Et c'est vraiment ça qu'on veut développer dans cette culture. Donc si Dieu parle à des enfants comme ça, nous aussi, il nous parle. Et ça, on veut grandir là-dedans. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc oui, on voulait parler par rapport aux relations authentiques. Et pourquoi les relations authentiques? Déjà, c'est un point dans les relations. On se rend compte qu'on vit dans un monde superficiel, complètement superficiel. Si tu peux passer la prochaine slide. Ça va arriver. Voilà. Donc on a noté un monde superficiel où l'apparence prime. Et on se rend compte que dans toutes les sphères de la société aujourd'hui, tout est superficiel. Sur l'apparence physique, il y a une obsession des standards de beauté, il y a un culte du corps. On préfère passer des heures et des heures à la salle de gym plutôt que travailler peut-être sur nous-mêmes pour évoluer. Il y a les réseaux sociaux, donc il y a une mise en scène du bonheur et quête de validation. En fait, on va mettre les meilleures photos de nos vies, de notre voyage, etc., sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, derrière, ça peut être creux et ça peut être vide. Et au niveau de la consommation aussi, on est prêt à acheter des belles voitures. On est matérialiste excessivement. Il y a les célébrités et les influences. Donc il y a une valorisation de l'image plutôt que du talent. Dans les relations humaines, on s'arrête vraiment à des relations superficielles. Ça reste, bonjour, ça va, ouais, on passe des bons moments, on rigole, etc. Mais est-ce qu'on va dans les profondeurs des relations? Est-ce qu'on vraiment on peut partager nos cœurs? Est-ce qu'on peut connecter avec les gens? Dans la politique, il y a des discours de façade, c'est des promesses qui sont creuses. Et dans l'éducation ou dans le domaine même professionnel, on va mettre l'accent sur les diplômes, mais on ne va pas regarder vraiment même qui est la personne, des fois. Ça peut être assez creux. Des fois, les personnes peuvent être même intelligentes, mais pas de savoir-vivre ou pas de choses. Il n'y a pas de relation, en fait. Ouais. Et donc, on a noté un besoin criant d'authenticité. Et ça, c'est vraiment dans la société. Il y a ce cœur. Il y a beaucoup de gens qui reviennent à des choses simples, à des choses où ils veulent du vrai, en fait. Ils veulent du concret.
Du coup, pour illustrer... On ne peut pas parler de relations authentiques ce matin sans que je sois pleinement authentique avec vous et vous dire que c'est un gros, gros challenge pour moi d'être là ce matin et de vous parler. Parce que je crois que si on veut parler de l'authenticité, il va falloir qu'on ne mette pas un masque de la personne qui est hyper confiante d'être là ce matin et de vous parler. Et parce que je crois aussi qu'être authentique et dire en fait, enfin se parler en vérité, on donne la possibilité aux autres de faire la même chose. Si je suis authentique et que je me montre tel que je suis, je vous donne l'opportunité, je vous invite à en faire de même.
Ouais.
Et,
Et oui, je pensais à un ami qui est pasteur Olivier Sarkis, vous le connaissez pour beaucoup, qui est pasteur à Montélimar. Et là, dernièrement, cette semaine, on était à une conférence à Bedford. Et on a vécu des moments super. Et merci Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que cet homme-là, quand il loue Dieu, je le voyais encore là, pendant les réunions de temps de louange, c'est comme David. Il danse dans tous les sens et vraiment, il se régale quoi, devant Dieu. Et en fait, cet homme-là, quand tu le vois louer Dieu, toi-même, tu es libéré pour rentrer plus à louer Dieu physiquement, à aller plus loin en fait.
Là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté.
Amen. Donc, on va déjà commencer par donner une définition à ce que c'est une relation authentique. Ça peut être bien. Au moins, on sait de quoi on parle. Une relation authentique repose sur la sincérité, la confiance et le respect mutuel, où chacun peut être lui-même sans crainte de jugement. Et donc, on a identifié trois axes. C'est d'être déjà authentique avec les autres, être authentique avec Dieu et soi-même, et l'authenticité, vivre l'authenticité dans l'Église. Alors, l'idéal, c'est quand même de revenir à la base. Quand on voit Adam et Ève, ils avaient une relation complètement authentique, n'est-ce pas ? Ils avaient une relation de cœur à cœur, complètement libre. Et on va juste le voir dans Genèse 3, versets 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc avant, ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est vraiment juste après la chute, après que Adam et Ève aient péché. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Donc avant, ils ne s'en rendaient pas compte. Donc si on peut faire un statut de avant la chute et après. Faire un constat. Avant la chute, il y avait un sentiment de confiance. Donc Adam et Ève, ils se sentaient en confiance. Ils avaient un lien d'appartenance, un sentiment d'appartenance. Ils étaient approuvés par Dieu. Et l'authenticité, c'était la norme de ce qu'ils vivaient. Et après la chute, il y a eu un sentiment de honte, besoin de se cacher, peur de se dévoiler, peur d'être rejeté. Et donc mise en place de parades pour ne pas souffrir.
Et du coup, pour parler de ces parades-là, si on peut mettre la slide suivante, ce matin, on va appeler ça les costumes de survie. Les costumes de survie, comme son nom l'indique, c'est un costume qu'on va mettre, donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment nous. Souvent, ça prend place dans la tendre enfance pour se protéger des blessures émotionnelles, parce qu'un enfant, quand il naît, sa plus grande peur, c'est de plus être aimé de ses parents, parce qu'en fait, il a besoin, c'est un besoin vital, d'avoir ses parents qui s'occupent de lui, d'avoir de l'amour, d'avoir de l'affection. Et il a tellement peur de perdre cet amour-là qu'il va mettre en place des costumes de survie pour justement, surtout, pas perdre cette affection-là et se protéger contre des blessures qu'il pourrait avoir. Et en fait, donc ça va commencer petit, mais en fait, en grandissant, on arrive à l'école, et puis pour se faire des copains, pour se faire des copines, et ben du coup, on va parler un peu pareil, on va se dire « Ah ben, faut que je m'habille comme un tel », donc on va s'habiller comme ça. Enfin, on va vraiment mettre de côté, en fait, mettre au congélateur, on peut dire, des parties de nous pour pouvoir être accepté des autres, pour pouvoir se sentir aimé. Donc, on va mettre en place des mécanismes, on va mettre un masque qui empêche finalement de voir comment on est vraiment, mais qui nous rassure sur le moment. Ensuite, à l'adolescence, pareil, on a un gros besoin d'appartenance. Donc, pour appartenir, on est prêt même à faire des compromis avec ses valeurs profondes juste pour être accepté dans un groupe et juste pour se sentir aimé et valorisé.
En fait, on va même modifier qui on est. On va adopter des nouveaux comportements. On va pas être nous-mêmes, en fait, pour pouvoir être accepté à cause de ce besoin d'approbation.
Donc, on va se mettre à jouer des rôles, à occuper des positions qui vont nous éloigner de notre vrai moi, de ce comment Dieu nous a créés. Et du coup, on n'arrive plus à se montrer tel que l'on est. On n'arrive pas à poser du coup ses propres limites, parce que finalement, si mes limites mettent un frein ou empêchent peut-être d'être accepté par l'autre, bah, peut-être je vais petit à petit rogner un peu sur mes propres limites pour pouvoir être accepté de l'autre. C'est des personnes qui peuvent avoir du mal à dire non aussi, mais si je dis non, par exemple, à telle ou telle chose, il faut que je trouve des excuses, il faut que je trouve des raisons en fait, parce que sinon, peut-être ça peut remettre en question l'affection qu'on porte. Et du coup, j'avais entendu une phrase que je trouve très parlante, c'est « Si je ne sais pas dire non, mon oui n'a pas de valeur. Si je ne suis pas capable de poser mes propres limites et de dire non à certaines choses, est-ce que vraiment mon oui, il a une quelconque valeur ?» Parce que c'est si je sais dire non, quand je dis oui, la personne se dit « Ok, elle dit oui, c'est vraiment ce qu'elle a envie, c'est vraiment ce qu'elle pense. » On peut parler en vérité, on peut se sentir dans l'authenticité, dans la relation. Il y a quelques années, on était au Cambodge pour un voyage et on a rencontré un missionnaire qui était là-bas. Et en fait, il nous disait, quand il est arrivé, il parlait de Dieu aux personnes. Il disait, bah, écoutez, ce soir, j'organise une petite réunion chez moi. Est-ce que ça vous dit de venir? Puis tout le monde disait oui, 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 oui. Donc lui, il se disait, mais Seigneur, le ciel est ouvert ici. On attendait juste que j'arrive pour la moisson est prête, quoi. Et en fait, arrivé le soir, personne venait. Donc une fois, deux fois, il s'est dit, c'est quand même étrange que tout le monde a l'air de vouloir venir, mais personne ne vient. Et en fait, en discutant avec un autre missionnaire, il lui dit, en fait, ici, culturellement, tu dis pas non, en fait, quand quelqu'un t'invite. Tu peux pas, en fait. C'est comme perdre la face, c'est irrespectueux. Donc au mieux, des fois, c'est quelqu'un qui dit non à ta place, ou au pire, tu dis juste oui et il se passe rien. Et tout ça pour vous dire que si justement la personne nous dit oui mais que finalement elle vient pas, si on dit oui alors que c'est pas vraiment ce qu'on veut, ben comment on fait pour savoir c'est quoi, c'est, en fait notre relation elle est fondée, elle est basée sur quoi, elle est où l'authenticité, si à un moment donné on sait pas se positionner en juste disant ben en fait là juste c'est pas ok pour moi. Et voilà, donc si on peut passer à la slide suivante dans ces rôles qu'on peut jouer aussi, on voulait vous partager sur certains peut-être vous connaissez, c'est un médecin psychiatre qui a théorisé ce concept relationnel qui s'appelle le triangle de Cartman, qu'on appelle aussi le triangle dramatique. Donc, si tu veux.
Donc dans ce triangle, il y a trois rôles qu'on peut adopter. Le premier, c'est la victime. Donc on se rabaisse, on se sent impuissant, on se plaint, on rejette, on ne fait pas de demande d'aide claire. Et on évite les responsabilités.
Et en fait, souvent, alors là, juste pour clarifier, quand on parle de victime dans ce schéma-là, on ne parle pas de quelqu'un qui a été victime d'un accident ou d'un traumatisme. On parle d'une position qu'on prend à un moment donné dans une relation. Donc voilà, j'écarte, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est vraiment, on n'est pas vraiment victime, mais on se positionne à un moment donné dans une plainte et on n'est pas dans la recherche active de solutions, mais juste dans ce qu'on plaire, dans sa propre plainte. Et en fait, on ne se sent pas responsable. On ne sent pas qu'on a une possibilité d'agir en fait, pour sortir de cette situation.
Ensuite, donc, il y a le sauveur. Il intervient sans qu'on lui demande, rabaisse les capacités des autres pour se valoriser et garder les autres sous sa dépendance.
Donc le sauveur, c'est le super-héros, c'est Superman. C'est celui qui intervient alors qu'on ne lui a pas demandé. C'est celui qui va dire, moi, je sais de quoi tu as besoin, en fait. Tu ne m'as pas demandé mon avis, tu ne m'as pas demandé mon aide, mais je vais te l'apporter parce que je vois que tu as l'air quand même d'être en détresse. Et moi, j'ai vraiment ce que tu as besoin. Et du coup, c'est quelqu'un qui va...
La responsabilité, finalement, des décisions de l'autre aussi.
C'est ça, mais du coup, qui va chercher aussi à dominer. Parce que quelque part, quand je fais ça, j'ai un peu du pouvoir sur toi parce que tu as besoin de moi, en fait. Si je ne suis pas là, qu'est-ce que tu vas faire avec tous tes problèmes? Mais c'est vraiment... ce qu'il y a derrière, c'est vraiment ce besoin de reconnaissance, en fait. C'est pas vraiment pour aider l'autre. C'est si je t'aide, si je te montre que tu as besoin de moi, du coup, je me sens valorisée. En fait, ça me fait du bien d'être dans cette position où je t'aide parce que c'est toi qui as besoin d'aide. Moi, je suis celui qui sait, quoi. Je suis le héros. Je suis la personne qu'il te faut. T'inquiète de rien, je m'occupe de tout.
Et donc ensuite, il y a le persécuteur qui dévalorise, qui critique, qui ironise, juge, punit, dénigre et accuse. Il persécute pour se valoriser et il a peur parce qu'il ne maîtrise pas. Il ne contrôle pas.
Une fois de plus, le persécuteur, on ne parle pas de quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et qui est dans un schéma de persécution. On parle de quelqu'un qui va se mettre dans le rôle de lancer des piques un peu, de dire des trucs sous le coup de l'ironie, enfin qui va être là pour rabaisser. Mais en fait, derrière ce fonctionnement-là, il va cacher ses propres peurs, en fait. C'est que ça le met en miroir de cette situation et comme il ne maîtrise pas la situation, son seul moyen d'action, finalement, c'est d'être dans la critique, d'être dans le jugement, dans le fait de rabaisser l'autre. En fait, il est vraiment miroir de la victime. Et faut savoir que... Alors, peut-être vous reconnaissez dans une de ces personnes, et c'est normal, en fait, parce qu'à des moments donnés, dans des relations, on peut... Puisque c'est inconscient, en fait. C'est rarement conscient qu'on tombe dans ces schémas-là. Et des fois, on se reconnaît, on se dit, ouais, c'est vrai qu'il y a des moments, peut-être, que je veux jouer un peu le sauveur avec l'autre, ou peut-être je veux me victimiser, ou peut-être... Et en fait, c'est OK, mais je pense que d'en avoir conscience, ça permet de prendre aussi un petit peu de recul. Sachant que les rôles peuvent bouger. La victime, au bout d'un moment, qui va en avoir marre que son sauveur ne trouve pas les bonnes solutions, quand même, peut devenir le persécuteur du sauveur. Et le sauveur, qui à un moment donné en a marre que la victime ne se bouge pas, peut devenir son persécuteur. Et du coup, on est dans une sorte de danse relationnelle où, en fait, dans ce service, on ne s'en sort pas et ça peut devenir vraiment toxique. Et la réponse à ça, parce que c'est pas tout de se dire que des fois on peut tomber dans ce genre de schéma, mais la réponse à ça, c'est l'amour parfait de Dieu. Parce que l'amour parfait de Dieu bannit toute crainte. et toute peur, et il répond à tous nos besoins. Parce que derrière ces schémas-là, qui sont souvent inconscients, c'est quoi qu'on recherche ? C'est un besoin d'attention et de réassurance. La victime, pourquoi elle va avoir besoin d'être dans la plainte ? En fait, la plainte, ça va venir, j'ai besoin d'être rassurée, en fait. J'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est ça, c'est un appel à l'aide, en fait. Je veux qu'on me regarde, je veux qu'on s'occupe de moi. Ça peut être un besoin de reconnaissance et de valorisation aussi de la part du persécuteur, par exemple, de dire, si je te dévalorise quelque part, c'est une façon de me valoriser. On est d'accord, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas parce que vous allez dévaloriser quelqu'un que ça vous valorise vous. Au contraire, quand on est dans l'honneur de « je reconnais ta valeur », c'est là que nous, on peut aussi reconnaître notre propre valeur. C'est pas parce qu'on dévalorise l'autre que ça nous donne plus d'estime ou de valeur.
Mais ça reste des mécanismes en fait qui sont un peu automatiques finalement, si on n'y prend pas garde, quoi.
Ouais. Et donc le sauveur va être plutôt dans ce besoin de contrôle et de supériorité. J'ai le contrôle sur toi en fait, tu dépends de moi. Et du coup, si tu dépends de moi, c'est que je suis supérieure à toi. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est la peur de quoi ? Les deux plus grandes peurs, c'est la peur du rejet et de l'abandon. C'est en fait, on fait tout ça parce que finalement, ce qu'on veut surtout pas vivre, c'est le rejet et l'abandon.
Il y a une étude qui a été faite où il parlait du rejet et de l'abandon. En fait, le rejet et l'abandon, ça éveille dans le cerveau les mêmes zones que la douleur. Donc pour dire à quel point c'est insupportable.
Physique,
et pourquoi on va chercher des parades comme ça.
Si on peut mettre la slide d'après. Timothée Keller, un pasteur, a dit « Le plus grand besoin de l'homme est d'être pleinement connu et pleinement aimé. » Donc pour ça... Eh ben, il faut qu'on accepte d'être pleinement connu, en premier par Dieu, faire tomber les masques. Dans Psaume 139, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Donc c'est d'aller dans la présence de Dieu et de tomber les masques. Je crois que même des fois devant Dieu, on peut avoir un masque de « tout va bien ». Presque on essaie de rassurer Dieu que voilà, ça va bien se passer. Alors qu'en fait, Dieu, la seule chose qu'il attend, c'est qu'on vienne dans cette intimité avec lui, qu'on fasse tomber les masques et qu'on déverse notre cœur devant lui. Et ensuite, parce qu'on a été pleinement authentique avec lui, qu'on reconnaît les choses qu'on a besoin de travailler. Peut-être que si on se reconnaît dans ces schémas-là, peut-être qu'on se dit oh, « mais moi, des fois, en fait, je me comporte un peu comme un sauveur, comme une victime ou un persécuteur. » En fait, c'est de le reconnaître, parce que si on se cache en disant « pas du tout, alors moi, franchement, jamais je tombe là-dedans dans les relations », mais en fait, on ne peut pas laisser Dieu travailler notre cœur. C'est que quand on est dans l'authenticité, dans cette relation de vérité qui peut venir travailler notre cœur et qu'on peut être authentique avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et demander à Dieu en fait de reconnaître les mensonges auxquels on croit. C'est quoi les mensonges que je crois ? Pourquoi j'ai peur d'être rejetée ? Pourquoi j'ai peur d'être abandonnée ? Pourquoi j'ai peur que si je montre comme je suis vraiment, peut-être qu'on va plus m'aimer ? Et ça, c'est des mensonges, parce que c'est pas ça que Dieu dit. Dieu, il dit qu'on peut être pleinement connu et pleinement aimé. On peut faire tomber les masques, on peut montrer qui on est en toute vulnérabilité, parce que lui nous connaît pleinement et nous aime pleinement. Alors si Dieu, il le fait, s'il a placé ses vérités en nous, des fois on a juste besoin de se les rappeler, de mettre en lumière les mensonges et de demander à Dieu de venir ancrer en nous ces vérités-là. Et donc, notre exemple parfait, c'est Jésus. Donc, être authentique comme Jésus. Jésus, juste avant sa crucifixion, il est allé se mettre à part avec des disciples et il leur a dit « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Donc Jésus nous a montré que même quand on est triste, même quand c'est difficile pour nous, bah en fait c'est ok de se rendre vulnérable, c'est ok de dire « mais là je suis triste à en mourir en fait, là c'est trop difficile ». Et comme c'est notre exemple, soyons authentiques dans ce qu'on peut ressentir et dans nos émotions.
Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'il a pris avec lui donc, trois personnes, Pierre et les deux fils de Zébédée. Il n'est pas allé dire ça à tout le monde non plus. Il a pris des personnes de confiance où il a pu partager son cœur aussi. Et ce qui m'amène au point suivant, c'est que pour développer une culture de relations authentiques, on doit cultiver donc une atmosphère sécure, de confiance, de bienveillance et de non-jugement. Et je prends l'exemple de la prophétie dans l'Église, on veut grandir dans le prophétique. Donc si on doit être capable d'accepter que l'autre peut se tromper en fait. Et on doit être bienveillant envers l'autre. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Et dans Jacques 5, à 16, verset 16, il y a ce passage qui nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Alors oui, on voit confesser nos péchés les uns aux autres. C'est l'aspect vulnérabilité. Donc ça veut dire se rendre vulnérable, reconnaître et pouvoir partager avec d'autres que ben, là j'en suis là quoi. Là je galère. Et aujourd'hui il y a tout un courant chez les psychologues ou même chez les influenceurs. Tout le monde se dit ouais moi je misère avec ça. C'est comme il y a un effet de mode en fait un peu où on va partager dire ouais chez moi c'est le dawa, c'est n'importe quoi. Enfin je dis ça. c'est le bazar. Mes enfants, ben c'est n'importe quoi. J'arrive pas. Mes finances, je les tiens pas. Enfin, voilà. C'est vraiment un courant qui est là. C'est la vulnérabilité. C'est une bonne chose. Mais on a noté la vulnérabilité, oui, mais pas sans la redevabilité. Je m'explique pourquoi. Dans le passage qu'on a vu juste avant, là. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Pourquoi ?
Afin d'être
guéri. Donc ça veut dire on ne va pas en rester là, on ne va pas juste rester dans notre galère, dans notre misère. Yes. Dieu, il nous aime trop pour nous laisser dans notre misère, n'est-ce pas ? Oui. Donc le but de la vulnérabilité, c'est d'aller plus loin. Donc il y a redevabilité. Et la redevabilité, on peut la définir avec ces quatre points. La responsabilité, donc c'est accepter les conséquences de ses choix, les actes qu'on a posés, ce qu'on a pu faire. La transparence, c'est être honnête et faire état de ses actes. La correction, accepter les conseils et les critiques constructives. Ça, on a du mal des fois. Et ça, c'est que on a parlé le mois dernier sur le cœur d'orphelin.
Message.
On a parlé sur le cœur d'orphelin. Et en fait, quand on a ce cœur où on sait qu'on est adopté, qu'on est fils et filles de Dieu, qu'on est aimé de Dieu, qu'on est approuvé de Dieu, eh ben en fait, on n'a pas de mal à être corrigé, à être repris, parce que des fois, on a mal agi, en fait. D'où l'importance. Vraiment, pour moi, le thème du cœur du Père, c'est quelque chose qui est complètement central. On a 7 piliers pour cette année, mais le cœur du Père, c'est vraiment quelque chose de central, parce qu'énormément de choses découlent de ça. Et donc, dernièrement, c'est l'engagement. Respecter ses obligations envers Dieu, les autres et soi-même. Et je reviens sur la transparence, c'est être honnête et faire état de ses actes. C'est, la redevabilité, on n'aime pas, hein, franchement. J'avais noté rendre des comptes. Mais je me suis dit, ah, ça, c'est un truc qu'on n'aime tellement pas.
Je lui ai dit, oh, rendre des comptes quand même. Bon, ok, je cherche un autre synonyme parce que ça pique un peu quand même.
Et pourtant, c'est comme ça que Dieu a voulu l'Église. Dans les relations, qu'on puisse avoir des personnes à qui on rend des comptes, de dire voilà, là je galère, j'en suis là, et on va s'encourager les uns les autres à dire ben là, par exemple, je prends un exemple, j'arrive pas à lire ma Bible, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider, à qui je vais rendre des comptes, et je vais m'engager peut-être sur un quart d'heure où je lis un chapitre de la Bible par jour. Et puis à la fin de la semaine, je vais voir cette personne et je lui dis, bon, là c'était un peu compliqué, j'y suis pas arrivé. Mais l'autre personne, le but de l'autre personne, c'est de t'accueillir et d'être bienveillant envers toi, mais te dire, là il faut que tu te reprennes, il faut que tu y ailles, là, il faut que tu mettes des choses en place. Peut-être que tu peux faire ça comme ci, comme ça. Ben, peut-être mets une application sur ton téléphone pour réduire le temps ou quoi. Voilà, c'est un exemple. Et donc le dernier axe qu'on voulait partager avec vous, c'est en finir avec l'illusion de la communauté parfaite. Là, on va toucher quelque chose. Donc, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui était un brillant théologien. Il était pasteur pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un Allemand. Et c'était un résistant au régime nazi. Il est mort dans un camp de concentration. Il a été exécuté. Et il a écrit ceci. Celui qui aime son rêve de communauté plus que la communauté elle-même devient un destructeur de celle-ci. Ça, c'est super fort. Prenons un moment juste pour s'arrêter sur ça, de ce qu'il a mis. Celui qui aime son rêve de communauté plus que la communauté elle-même devient un destructeur de celle-ci. En fait, si on a une image de l'Église qui est parfaite, on va être déçu, on va critiquer l'Église, et pourtant c'est l'épouse de Christ. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui sont mariés, mais si on viendrait, on critiquerait votre époux, ça pique. Hein. Et je pense que notre cœur, ce n'est pas d'attrister le cœur de Jésus. En fait, on a besoin de comprendre que l'Église À partir du moment où je mets un pied dans l'église, elle est imparfaite. Donc, que moi ou vous, hein, je vous rassure aussi, vous aussi. Et donc, cet homme, il a identifié quatre phases pour vivre l'amour agapé, donc la vraie communauté des relations authentiques. La première étape, c'est l'illusion, l'excitation. Donc là, j'arrive à l'église, je découvre l'église et tout, il y a un accueil super, ils font du café, il y a des petits pains, des croissants, etc. La louange, ça déboîte, c'est de la bombe et tout, il y a la présence de Dieu. Voilà,
super bien accueilli, tous les aspects, voilà.
La deuxième phase, c'est la désillusion.
Alors le café était froid,
là, franchement, ça merde un peu là. Hein. La technique, c'était là, ça grésillait un petit peu. Voilà.
J'ai vu, elle est passée deux fois, elle ne m'a pas dit bonjour. C'est quand même pas la première fois.
Et là, j'ai vécu quand même quelque chose de difficile et puis le pasteur ne m'a pas appelé. Mmh. On touche des choses un peu plus profondes. Hein. et les frères, ils ne m'ont pas appelé. Ah. Là, ça touche un peu plus. Et en fait, on a besoin de se rendre compte que l'image qu'on a de l'Église, des fois, on fait de notre image une idole. C'est-à-dire que notre conception, notre vision de l'Église, on se dit ça doit être comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, dans n'importe quelle Église où on va, ben on se rend compte que ça ne marche pas. Au bout d'un moment, on est désillusionné. C'est un constat qui a été fait dans toutes les Églises. Et la troisième étape, ben, c'est l'acceptation de reconnaître que oui, l'Église est imparfaite. Et la quatrième, c'est l'amour agapé. Une fois qu'on s'est rendu compte que l'Église est imparfaite, que mon frère, ma sœur est imparfait, eh ben, je peux vivre vraiment quelque chose de plus authentique. Mmh. Et pour finir, en finir avec l'illusion de la communauté parfaite, c'est Henri Nouwen qui a dit ça, se pardonner les uns les autres de ne pas être Dieu. Donc on reste des humains, on est des hommes, on est imparfaits, et on a besoin de se pardonner de ne pas être Dieu.
Et juste, c'est pour l'amour qu'on aura les uns envers les autres qu'on reconnaîtra. Ouais. Qu'on est enfant de Dieu. Et je pense qu'il n'y a pas d'amour sans pardon. Parce qu'en vrai, on va forcément se blesser. On va des fois consciemment et des fois même inconsciemment. Mmh. On va se dire un acte manqué. Peut-être c'est vrai, j'aurais dû appeler un tel. Peut-être c'est vrai, j'aurais pu faire ça différemment. Mais en fait, on va devoir se pardonner pour continuer à grandir dans cet amour et dans ces relations authentiques. Et puis même, j'ai envie de dire, s'autoriser peut-être à dire « Ah, tu vois, ça m'aurait fait vraiment plaisir que tu m'appelles là. » Juste en fait d'être authentique aussi en disant bah voilà, je pose pas d'attente sur toi, mais juste peut-être c'est mon langage d'amour en fait qu'on prenne de mes nouvelles quand je vis quelque chose de compliqué, parce que des fois on a tous notre langage différent et ce que l'un attend c'est pas forcément ce que l'autre, et de pouvoir être dans l'authenticité de se dire bah voilà, ça m'aurait fait plaisir, tu vois, voilà, j'aurais eu besoin à ce moment-là, sans jugement, sans dire t'as pas fait ça, tu aurais dû m'appeler, mais juste de dire voilà, moi tu vois, ça m'aurait fait du bien à ce moment-là que tu m'appelles, parce que si on le sait, ben c'est ça, peut-être que la fois d'après ben, on se dira ah oui, je sais qu'elle c'est son besoin d'amour, donc ben, je vais peut-être être un petit peu plus vigilant à le faire.
Et on a partagé ce verset tout à l'heure, sonde moi ô Dieu et connais mon cœur. Et je voudrais juste qu'on prenne un temps pour sonder, s'il y a des choses que le Seigneur a mis le doigt dans nos cœurs, ben, qu'on puisse avoir un temps juste de réflexion ou dire Seigneur, mais parle-moi, mets ces choses à la lumière. Peut-être si j'ai besoin de pardonner même à l'église, à différentes églises. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui font des va-et-vient entre les différentes églises. Là, j'ai été blessé. Et puis pour finir, après, pour aller nulle part, et puis pour passer à côté du plan de Dieu, de ne pas vivre la communauté comme Dieu l'a voulu. Et Saint-Esprit, ouais, je te prie de parler à nos cœurs ce matin, Seigneur. On veut être on veut être nous-mêmes authentiques devant toi, Seigneur. On veut être authentique avec toi et puis on veut que tu nous parles, Seigneur. On a besoin que tu nous parles, que tu mettes en lumière des choses. Là où on a été rejeté, Seigneur, que tu viennes guérir en cet instant, Seigneur. Saint-Esprit, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci de venir toucher nos cœurs avec ton cœur d'amour, Seigneur. Comme on l'a chanté tout à l'heure, ta bannière sur moi, c'est ton amour, Seigneur. Viens déverser ton amour, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Et pour certains, peut-être, on avait cette pensée qu'il y en a peut-être qui ont été authentiques avec leur communauté, qui ont été authentiques avec des frères et sœurs, et qui ont été blessés. Et Saint-Esprit, vraiment, que tu puisses venir guérir ces personnes, Seigneur. Viens guérir, Seigneur, maintenant, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Viens faire ce que toi seul sais faire, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu en ce lieu, Seigneur.